Deux versets parmi les plus connus de la parole de Dieu, de la Bible, se trouvent dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 23 et 24. Vous les connaissez certainement par cœur, car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ces deux versets résument à eux seuls, ils résument l'essentiel du message biblique, c'est quelque part le cœur de l'évangile qui est contenu dans ces deux versets. Tous les êtres humains, dit ce verset, sont coupés de Dieu pour toujours à cause de leur péché, mais Dieu, par sa grâce, déclare juste, gratuitement au moyen de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre accomplie par Jésus, celles et ceux qui mettent leur foi en lui. Voilà un résumé de l'Évangile. Et la question qui se pose et que j'aimerais nous poser ce matin, à laquelle j'aimerais que nous réfléchissions, question qui se pose et qui s'impose pour nous devant cet amour de Dieu, cet immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, est celle-ci: comment répondre à tant d'amour si Dieu m'a sauvé? Comment répondre? Comment vivre en réponse à cette grâce imméritée qui m'est offerte en Jésus? Quelle est la réponse adéquate à la grâce merveilleuse de Dieu manifestée en Jésus? Et les versets que nous allons méditer ce matin répondent aux questions que je viens d'énumérer. En réalité, c'est la réponse de l'apôtre Paul à cette question, d'une certaine manière, que nous allons considérer ce matin. Et cette réponse de l'apôtre Paul se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au début de ce chapitre, et j'aimerais en lire les deux premiers versets qui vont être projetés. Je lis dans la Bible à la Colombe, je pense que la traduction sera quasiment identique, il y a peut-être une petite différence, mais vous la repérerez. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, sœurs aussi, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un verset que nous avons souvent entendu. Et pour faire écho à la première partie, je vous invite à peut-être l'écouter avec une oreille nouvelle ce matin, comme si c'était la première fois. Pendant 11 chapitres qui précèdent, donc, dans cet épître aux Romains, l'apôtre Paul a parlé de doctrine, il a parlé de théologie. C'est du lourd, comme on dit. Les 11 premiers chapitres de Romains, c'est costaud. Pour simplifier, on pourrait dire que c'est de la théorie. Ce sont des vérités que l'apôtre Paul explique dans ces chapitres. Il parle des actes de Dieu et des principes qui fondent la foi chrétienne, qui fondent la vie chrétienne. Et puis, quand il arrive au chapitre 12, il va passer à la pratique. Il passe de la théorie à la pratique, d'une certaine manière. Il passe à l'exhortation. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce changement entre les 11 premiers chapitres et celui-ci s'opère de manière articulée. C'est pas il y a 11 chapitres d'un côté, puis le reste, et puis une espèce de cloison étanche entre les deux. Non, il y a une connexion entre les deux. C'est articulé. Il y a des passerelles, des vases communicants. Et cela, c'est ce donc du premier verset qui nous l'indique. Je vous exhorte donc, signifie que Paul fait ici le lien avec tout ce qui vient de précéder, tout ce qu'il vient de dire dans la partie doctrinale de son épître, avec ce qu'il s'apprête à dire dans cette partie plus pratique, plus exhortative. Et en réalité, l'apôtre Paul fonde ses exhortations sur l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus, qu'il vient d'exposer pendant 11 chapitres. Et c'est la raison pour laquelle il poursuit: Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Ou les bontés de Dieu, selon les traductions. C'est parce que Dieu a agi dans son immense bonté que nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Ce que Dieu a fait dans sa compassion appelle une certaine réponse de notre part. Et clairement donc, pour Paul, il n'y a pas de théologie sans pratique, comme il n'y a pas non plus de pratique qui ne soit pas fondée sur la théologie, sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de son œuvre. Les deux sont interconnectés, liés l'une à l'autre, et il faut toujours qu'il en soit ainsi. La pratique de la vie chrétienne ne doit pas avoir d'autre fondement que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons retrouver ce schéma de l'épître aux Romains dans d'autres épîtres de Paul, comme l'épître aux Éphésiens ou aux Colossiens, etc. J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que on peut constater ces dernières décennies un glissement plutôt important dans ce domaine, dans les églises évangéliques en particulier. Si la théologie ou la doctrine, autrement dit la Bible, a été le fondement de la pratique chrétienne depuis toujours, bien sûr il y a des exceptions, il se trouve qu'aujourd'hui ce n'est plus le seul fondement pour beaucoup de chrétiens. En effet, l'expérience et le ressenti font aujourd'hui partie, pour beaucoup de chrétiens, de ce qui est normatif pour la vie chrétienne. Si je l'ai expérimenté, si je l'ai vécu, si je l'ai ressenti, si je l'ai vu, si je l'ai entendu, alors c'est vrai. C'est vrai, peu importe que la Bible en parle ou pas, peu importe que la Bible abonde dans ce sens ou pas, peu importe même que la Bible dise le contraire. Si je l'ai vécu, si je l'ai ressenti, c'est vrai, et ça compte au moins autant que ce que dit l'Écriture pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et c'est ainsi que beaucoup de subjectivité et de relativisme ont vu le jour ces dernières décennies dans beaucoup de milieux évangéliques. La norme de l'Écriture, le sola scriptura de nos réformateurs, a ainsi été remplacée par celle de l'expérience, qu'elle soit associée à celle-ci ou pas. Et il est facile d'imaginer que les changements de pratique que cela a entraînés n'ont pas toujours des bases scripturaires solides. Et c'est la raison pourquoi il est fondamental dans notre passage de bien comprendre ce qui se passe, de bien comprendre que dans la pensée de Dieu, c'est toujours la doctrine, la théologie, c'est-à-dire ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit, qui doit être le fondement de la pratique chrétienne. Je referme cette parenthèse. Après avoir dit pendant 11 chapitres les bontés de Dieu manifesté en Jésus, que dit l'apôtre de la réponse appropriée que le chrétien devrait avoir? Et il dit trois choses dans notre passage. Il les dit les unes après les autres, mais ça forme un tout, mais on les prendra l'une après l'autre. Il dit, premièrement, que nous devons offrir notre corps. C'est la première chose. Nous allons voir ce que cela représente. Et puis il dit, deuxièmement, que nous ne devons pas nous conformer au monde présent ou au siècle présent. Et puis, il dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant de passer au premier point, j'aimerais souligner le ton qui est employé par l'apôtre ici. Un ton qui exhorte et non pas qui commande. Pourquoi? Sans doute parce que notre réponse à l'amour de Dieu doit toujours venir de notre cœur, doit toujours venir de notre volonté et de notre reconnaissance, et jamais de la contrainte. L'apôtre Paul ne dit pas « je vous commande », mais il dit « je vous exhorte » par les compassions de Dieu. Quand je considère la bonté de Dieu manifestée en Jésus, quand je considère ses compassions, tout ce que Dieu a fait pour moi, alors que je ne méritais rien, alors rien d'autre, rien de moins que la consécration et la reconnaissance ne sont appropriés. Oui, la réponse acceptable et appropriée du pécheur sauvé par grâce, c'est toujours une vie consacrée de consécration à Dieu. La première partie de notre réponse aux bontés de Dieu, c'est donc quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. Paul parle d'offrir nos corps. Et le vocabulaire qu'il utilise ici est un vocabulaire qu'il tire du monde sacrificiel, du monde des sacrifices. D'ailleurs, le mot sacrifice est utilisé dans notre texte, ainsi que celui de culte. Et puis, il y a un verbe qui est utilisé, qui est traduit en français par offrir, et qui veut littéralement dire présenter, comme on présente un sacrifice, une offrande devant l'autel. Alors, nous devons faire un peu de gymnastique, cérébrale pour imaginer le monde sacrificiel de l'époque. C'est pas notre réalité. Mais celles et ceux à qui l'apôtre Paul parle côtoyaient ça tous les jours. À chaque coin de rue, il pouvait y avoir un autel, c'était leur réalité. C'était le monde familier des contemporains de l'époque. Mais pour nous, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Oui, on a vu des photos, on a entendu des explications, on connaît des réalités peut-être dans notre monde aujourd'hui qui y ressemblent, mais ce n'est pas notre réalité à Villefranche, à Nîmes, en France, aujourd'hui. Que veut dire offrir ou présenter son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu? À quoi Paul fait-il référence? Et que demande-t-il finalement aux frères, aux chrétiens auxquels il écrit de faire. Si nous sommes à l'aise avec l'idée d'offrir notre cœur au Seigneur, pour ce qui est de notre corps, c'est peut-être un petit peu différent. C'est autre chose, c'est une notion qui nous est moins familière. C'est peut-être même une idée qui, d'une certaine manière, nous dérange. Le corps ici est sans doute bien plus que simplement l'enveloppe charnelle. C'est bien plus que le physique opposé au spirituel. Sans doute qu'il faut voir ici le corps comme le vecteur, le moyen par lequel se manifeste la vie, tout simplement, toute la vie. Ainsi, offrir son corps, ce n'est rien d'autre qu'offrir sa vie tout entière. Avant votre conversion, dit Paul aux Romains, au chapitre 6, et nous allons lire ces versets dans quelques instants, « Vos corps, dit-il, vos membres étaient dominés par le péché. Votre corps, dit Paul aux Romains, obéissait au désir du péché. Votre corps, dit-il, était à la disposition du péché comme une arme, un instrument pour l'injustice, dit-il, pour l'impureté et pour le mal. » Ça, c'était avant, dit Paul. Mais maintenant que vous êtes à Jésus-Christ, mettez votre corps tout entier à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. J'aimerais que nous lisions les versets de Romains 6, c'est les versets 12 et 13 et puis verset 19. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses désirs, ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Puis encore le verset 19, je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair, de même en effet que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal, pour aboutir au mal. Ainsi maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice, pour aboutir à une consécration. Ça, c'était avant. C'est par le corps que se manifeste notre vie. Et après avoir mis notre corps au service du péché, l'apôtre Paul nous exhorte à le mettre au service de la justice, au service du bien, au service de l'obéissance à Dieu. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la sanctification et le service dans notre vie ne se font jamais automatiquement. Rien ne se fait sans nous dans ce domaine. Rien ne se fait, pour citer une phrase célèbre en son temps, rien ne se fait à l'insu de notre plein gré. Rien ne se fait contre notre volonté dans ce domaine. Ce n'est pas parce que je suis devenu une nouvelle création en Jésus-Christ que je vais marcher en nouveauté de vie sans autre. Je dois le vouloir. Je dois y mettre tout mon cœur, je dois y mettre ma volonté, je dois y mettre tous mes efforts et je dois y persévérer jour après jour. Je dois mettre ma vie au service de Dieu, la lui présenter, la lui offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à ses yeux. Nous avons l'habitude d'offrir des choses à Dieu. Nous donnons de l'argent. Et nous venons de le faire, certains en tout cas parmi nous viennent de le faire, je le dis ainsi parce que je ne l'ai pas fait, nous donnons de l'argent au moment de l'offrande. Nous donnons de notre temps, de notre énergie pour servir le Seigneur. Mais ce que Dieu veut vraiment de nous, ce n'est pas ce que nous avons, ce n'est pas ce que nous possédons, ce qu'il veut c'est ce que nous sommes, ce qu'il veut c'est notre vie. À son service. L'apôtre Paul ici, dans ce passage de Romains 12, n'exhorte pas les chrétiens à aller plus souvent à l'église. Il ne les exhorte pas à donner plus au moment de l'offrande. Il ne les exhorte pas à participer à plus de rencontres pendant la semaine. Il les exhorte à répondre à l'amour de Dieu de la seule manière acceptable aux yeux de Dieu, à savoir en lui donnant, en lui consacrant ma vie tout entière. Dieu ne veut pas que nous lui apportions des sacrifices. Dieu veut que nous soyons le sacrifice. Nous revenons à Romains 12, versets 1 et 2. Je vais y revenir au niveau du texte. Oui. Ce don de soi, ce sacrifice auquel nous sommes appelés, Paul le qualifie de trois manières dans notre texte. Il le qualifie de vivant, parce que c'est notre vie en action que Dieu veut, pas notre mort. C'est facile à comprendre. Il le qualifie de saint, parce que c'est une vie mise à part, consacrée au Seigneur, que Dieu désire. Et il le qualifie d'agréable à Dieu, parce qu'il est possible, comme Caïn, souvenez-vous, d'offrir à Dieu un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Ce serait d'ailleurs de notre part un culte déraisonnable. Et je dis les choses ainsi parce que Paul parle ici du sacrifice de notre corps, de notre vie, comme d'un culte raisonnable de notre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot qui est utilisé ici en grec et que nous traduisons donc en français, c'est le mot que l'on peut traduire littéralement par logique. Un culte raisonnable, c'est un culte logique. C'est le mot qui est utilisé, logique. C'est un culte comme la réponse logique à l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus, à son amour, à ses bontés, à ses compassions pour moi. Le culte que Dieu attend de moi, c'est un culte logique, la réponse logique à son amour pour moi. En réalité, ce culte raisonnable est la seule réponse acceptable qui soit. Et cette réponse logique, acceptable, c'est pas des rites, c'est pas des cérémonies, c'est pas une multiplication de rencontres ou que sais-je, c'est le don de ma vie. Et c'est le seul culte logique ou raisonnable, acceptable, de ma part, à ce que Dieu a fait, si effectivement j'ai accepté son amour manifesté en Jésus. Alors malheureusement, d'une certaine manière, pour nous, nous avons considérablement réduit la notion de culte dans notre vie. Nous l'avons réduit à 1h, 1h30 le dimanche matin. Et puis nous l'avons peut-être réduit à ce que nous appelons parfois le culte personnel, la lecture quotidienne de la Bible et un temps de prière. Pour nous, le culte se résume à peu près à ça, dans notre vie, dans notre semaine. Mais en fait, rien n'est moins éloigné de la vérité que cela. Le culte auquel Dieu nous appelle et le culte auquel Dieu prend plaisir, ce n'est pas le chant de quelques cantiques le dimanche matin, c'est pas l'écoute d'une prédication, qu'elle dure 20 minutes, 30 minutes ou que sais-je, dans la semaine. Ce n'est même pas la lecture de quelques versets chaque jour et puis quelques minutes de prière. Alors bien sûr, toutes ces choses sont importantes. Elles sont très importantes même. Et elles font partie de notre consécration à Dieu. Mais le culte auquel Dieu nous appelle, le culte auquel il prend plaisir, c'est avant tout notre vie tout entière, offerte à son service. Voilà le culte que Dieu attend de notre part. C'est ce que Paul dit dans notre texte. Voilà le culte logique, raisonnable de notre part. Voilà la réponse acceptable de notre part aux compassions de Dieu manifestées en Jésus et que nous avons acceptées si nous sommes disciples du Seigneur. Voilà le culte spirituel auquel Dieu prend plaisir. Et donc il faut certainement peut-être que régulièrement nous réfléchissions à ces choses et que nous repensions à notre compréhension de ce qu'est un culte. Toute la semaine, chaque jour, Dieu attend le culte de ma vie, le culte du don de ma vie. Ne pensons pas que nous avons rendu un culte à Dieu quand nous serons partis d'ici et que c'est fait jusqu'à dimanche prochain. Si nous raisonnons comme ça, alors nous n'avons pas compris ce que Paul dit dans ce passage. Le culte, c'est tous les jours, à la maison, à l'école, au travail, à l'église ou ailleurs. Vous connaissez ce verset de Paul aux Corinthiens, « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous sommes là au cœur de notre propos. C'est toute ma vie qui doit être vécue à la gloire de Dieu, comme un culte raisonnable à son amour, en réponse à son amour. Après avoir exhorté au don de soi comme seul culte raisonnable de notre part, l'apôtre Paul invite ses lecteurs à ne pas se conformer au monde présent, au siècle présent ou au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la deuxième partie de la réponse, de notre réponse aux bontés de Dieu. Alors que veut dire se conformer ou ne pas se conformer ? Se conformer, c'est, d'une certaine manière, rentrer dans le moule. C'est faire avec. C'est suivre le mouvement. Pour prendre une image, c'est faire le caméléon et prendre les couleurs du monde qui nous entoure. Ça, c'est se conformer. Je prends les couleurs au point que je me confonds avec mon environnement. Ne pas se conformer, c'est l'inverse, c'est faire autrement, c'est marquer sa différence, c'est vivre avec d'autres principes. Alors quand Paul parle ici de monde, il parle bien sûr du monde qui est en opposition à Dieu. Il parle du monde qui est sous la domination du prince de ce monde. Il parle des forces mauvaises qui sont à l'œuvre dans le monde. Il parle d'un monde qui est plongé dans le mal et dans les ténèbres. Un monde dont les principes de vie sont opposés à ceux de Dieu. Bien évidemment, beaucoup de choses sont mauvaises dans notre monde, mais il ne faut pas néanmoins tout diaboliser. Ce serait une grave erreur que de tomber dans cet excès-là, parce que tout n'est pas mauvais dans notre monde. Il nous faut donc du discernement pour pouvoir faire la part des choses. Il nous faut du discernement pour trouver un équilibre entre d'un côté tout diaboliser et puis de l'autre côté se conformer à tout. Les deux extrêmes sont mauvais et il faut que nous trouvions le juste milieu. Et cela nous rappelle que si le chrétien n'est pas du monde, comme certains versets nous le disent, Sa patrie est céleste, nous le savons. Il est néanmoins appelé à vivre dans le monde, à y prendre sa place, à y prendre sa place avec tous les autres êtres humains pour y briller de la lumière du Christ. Hormis la diabolisation du monde ou le conformisme au monde, un des écueils dans lequel le chrétien ou les chrétiens tombent parfois, c'est celui du retrait du monde. Du retrait du monde pour s'en préserver. On parle de cette partie du monde qui est mauvaise. Donc, on fait 2-3 pas en arrière et on se protège. Du retrait du monde pour ne pas s'y conformer. C'est plus facile de ne pas être ce caméléon qui prend les couleurs du monde si nous nous retirons du monde. Alors l'option peut paraître tentante. Mais il faut souligner ici que Jésus ne nous a jamais demandé de faire cela. Jésus ne nous a jamais demandé, n'a jamais demandé à ses disciples de se retirer du monde. Vous pourrez chercher dans toute la Bible, vous ne trouverez rien de cela. Au contraire, souvenons-nous de la prière sacerdotale de Jean 17, où Jésus prie le Père de ne pas ôter les disciples du monde, mais de les préserver du mal ou du malin. Attention donc à ne pas développer une attitude de ghetto, à ne pas construire des tours d'ivoire pour nous y préserver du monde. Notre patrie est céleste, certes, mais notre place ici-bas, elle est dans le monde. Parce que c'est dans le monde que nous pouvons et que nous devons être celle de la terre et lumière du monde. Être celle de la terre et de lumière du monde dans nos tours d'ivoire, ça sert à rien. Ça changera rien pour ceux du dehors. Mais par contre, si nous le faisons et si nous le sommes au milieu du monde, alors nous verrons l'œuvre de Dieu, le règne de Dieu avancer. Notre place ici-bas est dans le monde, mais nous devons veiller à ne pas nous laisser corrompre par le monde. Nous devons veiller à ne pas nous conformer au monde mauvais qui nous entoure. Au contraire, c'est nous qui devons influencer le monde. Ne pas se conformer, c'est donc faire attention à ne pas devenir comme le monde. Mais ça suffit pas, parce qu'en réalité, c'est nous qui devons influencer le monde. Être celle de la terre et lumière du monde, c'est bien cela, n'est-ce pas? C'est nous qui sommes et qui devons apporter cela au monde, et non pas l'inverse. Et une des difficultés dans ce domaine pour chacun de nous, je pense, c'est que depuis que nous sommes nés, nous avons appris à imiter. C'est le propre de l'apprentissage, de la vie. Nous apprenons, et nous apprenons souvent en imitant ce que nous voyons, ce que nous entendons. C'est le propre de l'apprentissage. Nous imitons et nous sommes sous influence, que nous en soyons conscients ou pas. Nous sommes sous influence pour deux choses, pour deux raisons. Nous sommes sous influence à cause de notre propre péché, qui est en nous et qui le sera jusqu'à la fin. Et nous sommes sous influence à cause du monde mauvais dans lequel nous vivons. Et tout cela fait qu'il est facile pour nous de nous conformer au monde présent sans même nous en rendre compte. Il y a tant de choses influentes qui prennent beaucoup de place dans nos vies aujourd'hui. Alors, là encore, il ne s'agit pas de tout diaboliser, mais de prendre conscience de toutes ces influences qui s'exercent sur nous jour après jour. Je pense ici en particulier, bien sûr, à tous les médias, à la télé, à Internet, aux réseaux sociaux. Nous sommes abreuvés d'informations, de publicités, de messages qui nous façonnent jour après jour, même à l'insu de notre plein gré, là c'est le cas de le dire, qui façonnent la pensée de nos contemporains et qui façonnent aussi la nôtre si nous n'y veillons pas. Et si nous nous conformons facilement depuis notre naissance physique, à la naissance spirituelle, à la nouvelle naissance, les choses en réalité commencent à changer. Elles devraient commencer à changer. Parce qu'il y a maintenant dans le chrétien, en nous, d'autres principes qui sont à l'œuvre. D'autres principes pour gouverner notre vie. Les principes mauvais du monde ne sont plus les seuls principes qui sont dans notre vie. Ce ne sont plus les seules possibilités que nous avons pour agir. Nous avons maintenant les principes de vie de Dieu, nous avons sa vérité, nous avons sa parole pour nous guider. Et c'est fort de cette alternative que nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie, que nous sommes appelés à marcher par l'esprit et non plus en suivant les désirs de la chair. C'est à cause de cela que Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au monde présent. Ne pas se conformer au monde présent, c'est donc ne pas vivre en suivant les principes mauvais du monde ou sa sagesse. Des principes qui en réalité sont très souvent diamétralement opposés à ceux de Dieu. Mais nous ne nous en rendons même plus compte tellement nous sommes submergés par tout ça. Je vais vous donner quelques exemples. Le monde dit « N'aimez que ceux qui vous aiment et méprisez les autres ». C'est à peu près ce qu'on peut entendre. Et ce que les gens pensent. Et Dieu dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est quand même très différent, n'est-ce pas ? « Tu aimeras tes ennemis et tu prieras même pour ceux qui te persécutent ». On est quand même dans des choses qui sont très très différentes. Le monde dit « La grandeur est dans l'accomplissement et la fin justifie tous les moyens ». Voilà un discours que l'on peut entendre dans le monde. Dieu dit « La grandeur est dans le service et dans l'humilité ». C'est très différent, n'est-ce pas ? Le monde dit « Le mensonge est acceptable quand il peut nous sortir d'un mauvais pas ». Dieu dit « Tu ne mentiras pas ». C'est très différent. Le monde dit « Il n'y a pas de normes. Chacun possède sa vérité ». Ça, c'est très actuel. « Tu as ta vérité, j'ai ma vérité ». Ça, c'est le discours que nous entendons aujourd'hui. Dieu dit « Je suis la norme. Je suis la vérité ». C'est fondamentalement différent. Le monde dit « Le bonheur, c'est de posséder ». Dieu dit « Le bonheur, c'est de me connaître ». Le monde dit « Toutes les relations sexuelles sont acceptables pour autant qu'il y ait de l'amour ». Dieu dit « Les relations sexuelles sont bonnes dans le cadre de la fidélité du mariage entre un homme et une femme ». Et nous pourrions comme ça continuer en multipliant les exemples qui nous montrent que les principes de vie qui régissent notre monde et ceux qui régissent la vie chrétienne sont fondamentalement, parfois même diamétralement opposés. Ces quelques exemples suffisent à nous le montrer, à nous le rappeler, combien les principes de ce monde sont éloignés de ceux de la parole de Dieu. Et pourquoi finalement Dieu nous appelle à ne pas nous conformer à ce monde ? C'est pas pour nous embêter que Dieu dit ça. C'est pas parce que c'est un rabat-joie. Mais c'est parce que c'est pour notre bien, parce que ces principes du monde nous éloignent de Dieu, nous éloignent de sa volonté. Et nous venons de le comprendre au travers de ces quelques exemples. Un appel au non-conformisme qui ne se trouve pas seulement dans cette épître aux Romains, mais que l'on trouve dans toute la parole de Dieu comme un leitmotiv, mais nous n'avons pas le temps de regarder d'autres passages. Je termine avec la troisième et la dernière partie de notre réponse aux compassions de Dieu, c'est notre transformation par le renouvellement de notre intelligence ou de notre pensée. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De quelle transformation s'agit-il ? Le verbe qui est utilisé ici, c'est un verbe que l'on connaît et que l'on retrouve dans un passage très connu de l'Écriture, que l'on retrouve lors de la transfiguration de Jésus. C'est donc le verbe que l'on pourrait traduire littéralement en français par « métamorphoser ». Soyez métamorphosés, voilà ce que Paul dit. Le changement dont Paul parle ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est pas juste un ravalement de façade. C'est pas une transformation où on redonne juste un petit coup de peinture pour que ce soit de nouveau joli. C'est un changement en profondeur, c'est une métamorphose dont Paul parle ici. Comment s'opère cette transformation ? Et l'apôtre précise qu'elle s'opère par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire par le renouvellement de notre pensée, par le renouvellement de notre compréhension des choses, par le renouvellement des principes qui gouvernent notre vie. Si la transformation en question ici s'opère par le renouvellement de l'intelligence, comment celle-ci est-elle renouvelée ? Et il faut constater que Paul ne donne pas la réponse à cette question dans ce passage-ci. Par contre, à l'aide du reste des Écritures, nous pouvons dire que le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée s'opère en réalité de deux manières, qui sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous avez d'un côté l'action du Saint-Esprit et vous avez de l'autre côté l'action de la parole de Dieu. C'est leur action combinée, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, qui renouvelle notre intelligence, notre pensée et qui nous conduit dans cette transformation dont parle l'apôtre. Je propose d'entrer un tout petit peu plus dans l'articulation des choses. Parce que nous sommes pécheurs et parce que nous vivons dans un monde qui est profondément marqué par le péché, notre intelligence, notre pensée est affectée. Elle est déformée, elle est corrompue d'une certaine manière. Et ainsi, nos choix de vie sont guidés, à des degrés divers bien évidemment, influencés par le péché d'une certaine manière. Mais quand nous venons à Jésus par la foi, quand nous laissons le Saint-Esprit faire sa demeure dans notre cœur, quand nous acceptons et gardons la parole de Dieu pour en vivre, alors nous choisissons de remplacer l'erreur et le mensonge en nous par la vérité de Dieu, par la parole de Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit. Nous commençons à comprendre qui est Dieu. Nous commençons à comprendre qui nous sommes à la lumière de notre compréhension de Dieu. Nous commençons à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Enfin, je dis nous commençons à comprendre autrement, bien évidemment. Et en comprenant ces choses, et en grandissant dans la compréhension de ces choses, nous adoptons le point de vue de Dieu, et en adoptant le point de vue de Dieu, nous commençons à agir comme Dieu le veut. Quand j'obéis à Dieu, parce que je comprends sa parole, parce que le Saint-Esprit agit dans mon cœur et me pousse à cela, alors les choses commencent à changer dans ma vie. Mon regard change. Mes actions changent, ma vie est transformée. Elle est transformée par le renouvellement de mon intelligence. Le renouvellement de notre intelligence par l'action combinée de la parole et de l'Esprit de Dieu nous transforme et nous amène à marcher en nouveauté de vie, nous amène à ne pas nous conformer au monde présent. Non seulement nous marchons en nouveauté de vie, mais nous sommes alors aussi en mesure de discerner la volonté de Dieu, qui est toujours, dit Paul, bonne, agréable et parfaite. Une volonté de Dieu que nous pouvons discerner puisque nous gardons sa parole, que nous pouvons discerner puisque l'Esprit de Dieu agit en nous. Et ce discernement de la volonté de Dieu va ainsi contribuer lui aussi à tout ce processus de renouvellement et de transformation dont nous venons de parler. Quelle est notre part dans ce processus? J'aimerais le redire et terminer en insistant là-dessus, que rien ne se fait sans nous. Notre part, après avoir accepté le Christ dans notre vie, c'est de nous nourrir de la parole, de la garder et d'y persévérer. On voit trop souvent la lecture de la parole de Dieu comme une contrainte. Mais en réalité, c'est ça qui nous nourrit et c'est ça qui nous transforme, qui transforme notre intelligence et qui nous amène, enfin qui renouvelle notre intelligence et qui nous amène à cette transformation dont parle Paul. Notre part, c'est donc de nous nourrir de la parole pour la garder et y persévérer. Et c'est aussi de rester en communion avec Dieu par son esprit. Et quand nous agissons ainsi, alors nous pouvons répondre aux bontés de Dieu, aux compassions de Dieu dont parle Paul. Quand nous agissons ainsi, alors nous pouvons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Quand nous agissons ainsi, alors nous pouvons ne pas nous conformer au monde, parce que nous avons une alternative dans notre vie, par la parole et l'esprit. Et quand nous agissons ainsi, alors nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, nous aide chacun, pour que nos vies soient toujours plus à sa gloire. Amen.